Bonjour tout le monde et bienvenue à l'écoute de notre nouveau podcast sur le rap toulousain. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. On reçoit un jeune rappeur toulousain nommé Jethro. Mais au fait, c'est quoi le rap ? Le rap est né le 11 août 1973 aux États-Unis, à New York, dans le quartier du Bronx, lors d'une soirée réunissant DJ, graffeur, breakdancer et chanteur. C'est le début d'une odyssée musicale. Le rap, c'est des punchlines, une musique qui n'a pas peur de défendre des causes et d'affirmer ce qu'elle pense. D'après la SACEM, aujourd'hui, 78% des jeunes de 14 à 24 ans écoutent des musiques urbaines créées en France. Et à Toulouse, il se passe quoi ? Aujourd'hui, la ville rose prend de plus en plus de place dans le rap game. Avant l'arrivée du groupe KDD dans les années 90, Toulouse était dans l'ombre de Paris et Marseille, les deux villes piliers du rap français. La scène rap toulousaine est aujourd'hui sous les projecteurs avec le groupe des deux frères Big Flo et Oli et le rappeur solo Laylo. Pourtant, de nombreux rappeurs aux multiples facettes alimentent la scène toulousaine en dehors de ses grands noms. Et comme on l'a annoncé tout à l'heure, on a la chance de recevoir aujourd'hui le jeune rappeur toulousain, Jethro, gagnant du tremplin du Rose Festival 2023. Il a sorti son premier album Versatile en mai 2023, dans lequel il jongle entre rap, R&B et parfois un peu de soul. Ce qui, selon moi, fait de super hits pour l'été qui arrive. Et maintenant, on écoute son dernier single nommé Flou, sorti cette année.
Ma vie n'est plus la même qu'avant. Depuis le jour où je l'ai vu danser, nos deux corps battent à la même cadence. Collision quand tu traverses mes pensées. On s'est croisés dans les rues de Paris, puis on s'est revus à l'after party. Danse avec moi jusqu'au bout de la nuit. On va finir par se ouh ouh ouh. Ah, j'aime comment tu danses, ta manière de bouger les hanches. Ouh, tu le fais avec élégance. C'est la mort qui suit, la mort qui suit. Sûr que tu penses, entre nous deux y'a trop de coïncidences. T'es devenu l'évidence. On va finir par se oh 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 oh. Dans ma tête je deviens fou oh 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 oh. On va finir par se oh 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 oh. Dans ma tête c'est le fou oh 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 oh.
On se creuse la tête pour le zéo. Puis on rentre en Fox sur Junéo. Elle est sexy, gang baby. C'est ma girl, ma ado. Quand elle bouge sur la mélo. Ooh. Baby, t'arrêtes pas. T'as rien capté, j'suis taré quand tu mets à l'écart. Pull up selecta. Avant que l'histoire die, 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 die. Wine up illégal, c'est bestial. Chacun tes mouvements devient létal. Baby, t'arrêtes pas. Ou bien c'est moi qui die, die, die.
On va finir par se oh oh oh.
Un seul baiser, tu me contamines. T'es si douce ou t'es câline.
Baby girl, quand tu veux, call me. T'es ma goudreau, t'es ma cocaïne. Un seul baiser, tu me contamines. T'es si douce ou t'es câline. Oh 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 oh. Dans ma tête, je deviens fou.
Bonjour Jethro, pouvez-vous vous présenter ?
Et bonjour Baptiste, merci beaucoup de me recevoir, ça fait très très plaisir d'être là. Bonjour à tout le monde et merci beaucoup de votre accueil. Donc me présenter, moi je m'appelle Jethro, j'ai 26 ans, je suis un artiste de la ville de Toulouse, j'ai grandi à Toulouse, j'ai fait toute ma scolarité à Toulouse depuis que j'ai 9 ans, je suis à Toulouse. Et j'ai commencé la musique quand j'avais 7-8 ans, voilà, j'ai commencé à chanter parce que dans ma famille, voilà, il y a... Il y a des musiciens, mon grand frère est musicien qui joue de la guitare et qui chante aussi. Ma mère chante beaucoup aussi à la maison, donc c'était un peu, ça faisait partie un petit peu de l'univers familial. Et donc je suis un peu tombé comme ça dans la musique un peu par hasard, et du coup c'est devenu une passion pour moi en grandissant. Voilà.
Et pourquoi tu as choisi le nom Jethro ?
Alors le nom Jethro, moi je viens d'une famille qui est très croyante. Et en fait, quand on était petit, on allait beaucoup à la messe, quoi. Et on avait l'habitude de lire la Bible. Et dans la Bible, il y a un personnage qui s'appelle Jethro, qui est en fait le beau-père de Moïse. Et moi, le prénom Jethro, en fait, ça m'a plu. Le prénom Jethro, juste direct. Et après, je suis allé faire mes petites recherches. Et j'ai découvert qu'en fait, le prénom Jethro avait une signification. Et il signifiait abondance. Et en grandissant, en fait, c'est une signification qui m'a beaucoup touché, parce que pour moi, c'était un petit peu le but de la vie, en fait. C'est-à-dire que pour moi, le but de la vie, c'est d'être abondant, mais en tout. Pas qu'en en richesse matérielle, mais en richesse humaine, en richesse émotionnelle, en tout. Et donc, ça m'a beaucoup parlé. Et donc, j'ai décidé d'en faire mon nom de scène. Voilà.
Et pour toi, Jethro, tout à l'heure, j'ai parlé du rap. Mais pour toi, c'est quoi le rap ?
Le rap, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Le rap, c'est très différent de ce que c'était il y a 10-20 ans. Il y a 10-20 ans, il y avait beaucoup ce concept de cypher où on allait se mettre autour d'une table, ou enfin, peu importe où l'endroit où on était, et on avait juste besoin d'un rythme et de nos phrases. Aujourd'hui, le rap, c'est beaucoup inspiré, c'est beaucoup imprégné de d'autres styles, notamment le rock, le R&B, la soul, tout ça, comme tu as dit tout à l'heure. Et donc pour moi, aujourd'hui, le rap, c'est en fait, et le hip-hop en général, c'est un lieu de rencontre aujourd'hui. Le rap, c'est un lieu de rencontre entre plein de styles, et en fait, c'est juste un moyen d'expression aujourd'hui. C'est beaucoup plus que les significations qu'on lui donnait à l'origine, c'est-à-dire des significations qui étaient beaucoup pour revendiquer, pour dénoncer. Aujourd'hui, ça a toujours cet aspect-là, mais c'est beaucoup plus un moyen d'expression à proprement parler. Voilà, donc pour moi personnellement aujourd'hui, moi j'utilise le rap pour exprimer plein de choses, l'amour, le partage, qui sont des valeurs qui sont très importantes pour moi, mais aussi pour dénoncer des choses qui se passent dans le monde. Donc voilà.
Comment tu qualifies ton rap ?
Mon rap, moi aujourd'hui je dirais que c'est un rap, si je devais trouver un nom, je dirais que c'est un rap mélodique en fait, c'est un rap... C'est un rap mielleux, voilà, je dirais ça, c'est un rap mielleux. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec beaucoup de soul en premier. J'ai été dans un groupe de gospel aussi avant, à l'époque, qui m'a permis d'en savoir beaucoup plus sur moi, sur ma voix. Je savais pas avant que il y avait des tessitures vocales, il y avait plein de termes petits termes comme ça qui étaient importants en fait dans la voix, pour qualifier ta voix, pour connaître ta voix. Et en fait, c'est quand je suis entré dans ce groupe de gospel là, où il y avait le maître du groupe, qui était un petit peu celui qui avait le plus de connaissances dans le groupe, qui m'a beaucoup appris sur la voix, sur la musique et tout, etc. Donc voilà, c'est moi, mon rap aujourd'hui, il est mielleux, parce que voilà, il n'a pas honte de s'enjoliver pour mieux faire passer les émotions et pour toucher plus de monde. Voilà.
Et quand est-ce que tu as découvert le rap, et tu avais quel âge à ce moment-là ?
Très jeune. J'ai un grand frère qui a 9 ans de plus que moi. Donc en fait, ça a été toujours mon modèle. C'est lui qui m'a fait connaître un petit peu tous les styles de musique, parce que lui, il est passé par dans son adolescence, il est passé par plein de périodes différentes. Et la première des périodes, c'était le rap, avec le rap des années 90, avec Tupac, Biggie, Nas, je ne sais pas si tu connais ces noms-là, qui étaient des gros, gros, gros noms du rap, et qui le sont toujours aujourd'hui, qui sont considérés comme des légendes. Et en fait, mon frère m'a fait connaître ce rap-là, et moi, j'écoutais en fait tout ce que mon frère écoutait. Et après le rap, pour lui, ça a été le rock, puis ensuite ça a été le reggae, et c'est le reggae depuis 15 ans maintenant. Je pense qu'il changera plus de style, mais voilà, c'est comme ça que moi je suis tombé dans le rap. Et au début, c'était juste chanter les chansons de tous les artistes que j'aimais à l'époque, Section d'Assaut, La Fouine, Maître Gims, Booba, tous ces artistes-là avec qui moi j'ai grandi et qui m'ont fait vraiment aimer le rap. Voilà. Donc c'est comme ça que moi, mon amour pour le rap est né.
Qui sont les artistes qui vous influencent, du coup, à part ceux que tu nous as cités ? Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vraiment t'a dit « moi, c'est ce que je veux faire »
Moi, j'ai beaucoup écouté du rap américain, beaucoup plus que français à la base. Faut savoir que moi, quand j'ai commencé à sortir à écrire et à sortir mes premiers morceaux, c'était en anglais, parce que j'écoutais énormément de rap américain, et encore plus que ça, j'allais regarder toutes les paroles de tous les artistes pour comprendre ce qu'ils disaient. J'allais étudier le contexte, pourquoi ils avaient écrit telle chose et tout, etc. Donc j'ai pu me constituer un vocabulaire et connaître vraiment d'où ça venait. Donc moi, les artistes aujourd'hui qui m'inspirent le plus, c'est plus des artistes américains. Aujourd'hui, il y a des artistes comme Travis Scott, comme Don Toliver, qui sont des artistes que j'aime beaucoup. Mais après, c'est pas ceux qui ont fondé ma culture du rap. Donc si je devais regarder plus loin, des artistes qui m'inspireront toujours, c'est des artistes qui sont pas du tout du rap, en fait. C'est des artistes comme Michael Jackson, comme Prince, qui ont vraiment, qui en fait, qui m'ont donné l'amour pour la musique avant même l'amour pour le rap. Voilà.
Quel est le premier clip ou son de rap qui t'a le plus marqué, et pourquoi est-ce qu'il t'a marqué?
Le premier clip de rap, ça sera Michael Jackson, Thriller. Jamais j'oublierai ce clip-là. Je me rappelle, quand j'étais petit, je faisais des cauchemars sur ce clip-là. Et je voyais Michael Jackson. Tu sais, je sais pas si tu connais ce clip-là.
Si, si.
Et ben, ce clip-là, moi, il m'a traumatisé quand j'étais petit. Et après, en grandissant, j'avais moins peur. Mais du coup, je réalisais à quel point cet homme-là, c'était du génie. Et c'était peut-être un homme et un artiste qu'on ne verra plus jamais, pour moi. Et avoir grandi dans ce contexte-là, avec, comme je disais, des artistes aussi comme Prince, qui sont des artistes mais tellement majeurs et qui remplissaient des salles, mais tellement énormes, que ça sera toujours des sources d'inspiration pour moi. Et après, tu as parlé des sources d'inspiration pour écrire mes chansons. Bien sûr, ces artistes-là sont des sources d'inspiration, mais dans le rap... Je pense que ça sera toujours des artistes comme Tupac et Biggie, qui pour moi, surtout Biggie, qui était très appliqué dans l'écriture et qui dénonçait vraiment, il y avait vraiment quelque chose de politique derrière leur texte. Et donc du coup, aujourd'hui, moi j'utilise ce côté-là, mais plus pour dénoncer ce que moi je considère comme important. Aujourd'hui, j'ai pas les mêmes combats qu'eux, c'est-à-dire que il n'y a plus la ségrégation et tout, etc. Mais j'ai des combats pour moi aujourd'hui qui sont des combats... comment dire, aujourd'hui je trouve que la jeunesse a tendance à avoir des combats qui sont peut-être pas les bons, et aujourd'hui la jeunesse a besoin de modèles aujourd'hui. Et donc du coup, pour moi, je trouve que c'est important de donner des bonnes valeurs, des valeurs d'amour, des valeurs de partage, qui pour moi se perdent un peu. Donc voilà, c'est important.
Est-ce que tu pratiques d'autres disciplines du hip-hop? Et je rappelle que le hip-hop, il contient 4 grandes disciplines: le rap, le DJing, le breakdance et le graffiti.
Non, j'ai déjà fait du graph quand j'étais petit. Très vite, hein. J'étais en primaire, et il y avait un atelier dans mon quartier, dans la maison de mon quartier, qui permettait aux jeunes de faire du graph sur des grosses pierres qui étaient installées au bord de la route. Donc on les avait décorées dans la cité où j'habitais. Et donc ça, c'était intéressant. Mais j'ai jamais fait de break. Par contre, j'ai fait du hip-hop, de la danse hip-hop, bon, pas en club, mais j'ai fait de la danse hip-hop dans un groupe que j'avais quand j'étais plus jeune, avec des amis à moi. Où voilà, on faisait des représentations dans des fêtes. Et comme on faisait pas que du hip-hop, on faisait aussi des danses africaines, on faisait aussi des mariages. Donc voilà, c'était c'était ma petite expérience aujourd'hui qui me sert aussi sur scène. Voilà.
Comment se déroule généralement une session studio?
Ça dépend. Aucune session studio ne se ressemble. En fait, quand tu écris des sons, en fait, dans le rap, il y a plusieurs disciplines. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de beatmaker. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est un beatmaker, mais c'est la personne qui va composer, en fait, le titre. Et aujourd'hui, on parle de musique assistée par ordinateur, MAO. Donc tout se fait à peu près sur un logiciel. Tu n'as presque plus besoin d'instruments, en fait. Et après, c'est un débat. Mais en fait, moi, je suis plus concentré sur l'écriture et sur la mélodie. Et donc, du coup, je travaille avec des beatmakers qui viennent en séance studio avec moi, avec qui on compose ensemble, etc. Moi, j'ai appris le piano il y a quelques années de ça, sur YouTube, tout ça. Donc, j'ai pas des connaissances, j'ai pas pris de cours. Mais ma petite connaissance de piano m'aide à composer, parce qu'aujourd'hui, un beatmaker, il a besoin d'un logiciel et d'un clavier. Avec ça, il peut tout faire, tous les instruments. Voilà. Et donc, une séance studio, les séances studio ne se ressemblent pas, mais si je devais dire en général, c'est-à-dire qu'il y a le beatmaker avec moi, on va composer la prod. Une fois qu'on a la prod et qu'on est satisfait de ce qu'on a sous la main, moi, je vais passer à ce qu'on appelle faire des top lines. Et faire une top line, aujourd'hui, c'est une mélodie. C'est-à-dire que ça va être la mélodie phare du morceau, donc la mélodie qui va être que l'auditeur va le plus retenir. Donc, en général, moi, ce qui me vient le plus facilement, c'est le refrain. En général, je vais me mettre derrière le micro et je vais faire du yaourt, tout simplement. En anglais, on appelle ça du mumble, c'est-à-dire tu ne dis rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mot. Des fois, ça peut être avec des mots lancé par-ci, par-là, mais ça te permet d'avoir une mélodie. Une fois que tu as ta mélodie, tu as ta structure de mélodie, tu vas découper. Et peut-être que ce morceau-là, il n'allait pas du tout sur le passage où tu l'as fait, tu vas le mettre à cet endroit-là, tu vas découper un petit peu, faire ton collage. Et une fois que tu as ton collage, tu vas passer à l'écriture. Et après, chaque artiste a sa manière d'écrire. Je sais qu'il y a des artistes qui n'écrivent pas du tout, et qui se mettent juste derrière le micro et refont. Encore, ça peut prendre des mois, des jours, ça peut prendre des heures et des heures. Moi, personnellement, je préfère me passer la prod et tout ce que j'ai fait en boucle. Je me la passe en boucle, je la mets sur une enceinte, je la passe en boucle et j'écris. J'écris tout ce qui me vient, je l'écris. Et en fait, je pense que sur cette phase-là, ce qui est important, c'est de ne pas juger ce que tu écris. On a tendance, nous les artistes et même tout le monde, à juger un petit peu ce qu'on écrit, à se dire ah vas-y, cette phrase que j'ai écrite, c'est pas forcément, elle n'est pas forcément intéressante. Mais en fait, ce que je trouve intéressant dans l'art et dans l'inspiration, c'est que au moment, l'inspiration, en fait, c'est quelque chose de très très sensible et très très volatile. Donc il faut vraiment la prendre quand elle vient et la poser sur le papier comme elle vient, et après par la suite tu peux venir arranger tout ça. Donc voilà, moi c'est comme ça que ça se passe dans mes séances studio et voilà, pour l'instant ça marche bien.
Il y a quand même 40 000 personnes qui sont venues te voir lors du Rose Festival. Ça a été quoi ta réaction en voyant tous ces gens-là?
40 000, je tiens à préciser, c'est 40 000 sur les 4 jours, c'était pas 40 000 pour moi. C'était, devant moi, il y avait 8 000 personnes, ce qui est déjà énorme. Et j'étais très reconnaissant par rapport à ça. Mais ma réaction, comme tu peux l'imaginer, j'étais très stressé. J'étais très, très stressé, mais j'étais confiant parce que je savais que je méritais d'être là. J'ai beaucoup travaillé avec mon équipe, Marlène qui est là avec moi. On a énormément travaillé pour en arriver jusque-là. Donc c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de travail, comme je disais. Mais ma réaction, en fait, juste la fierté. J'ai mon DJ qui est avec moi sur scène, qui est un ami d'enfance et avec qui on a fait les 400 coups, et aujourd'hui on se retrouve sur scène ensemble après tout ce travail, après toutes ces années, c'est gratifiant. Donc j'étais très content, très stressé, mais au moment où tu arrives sur scène, en fait, le stress il dure très peu, et il dure 30 secondes, et puis après c'est que du kiff, faut profiter. Voilà.
Quelle place occupe Internet dans le rap aujourd'hui, parce que ça prend de plus en plus de place? Et qu'est-ce que t'en penses?
Et si c'était que dans le rap, c'est dans toutes les musiques aujourd'hui. Hein. Internet, c'est incontournable. Incontournable pour un artiste. Tout ce qui est réseau, que ce soit Instagram, TikTok, tout ça, c'est en fait, aujourd'hui, le modèle du rap et le modèle de la musique a changé. Avant, on allait dans les boutiques acheter des CD, on allait écouter, on avait des... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y avait des endroits, quand j'étais petit, où même pour les DVD, pour les films, on avait une vidéothèque, je ne sais pas, ça s'appelle, voilà, c'est ça, une vidéothèque. On allait où je ne sais pas, vous n'avez pas connu ça, mais on allait dans une boutique où il y avait plein de DVD, plein de films même des fois, et on pouvait emprunter ou acheter ces DVD-là. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est le streaming. Donc aujourd'hui, c'est les plateformes de streaming. Et dans la musique, c'est exactement pareil, ça a changé. Et donc Internet, c'est la place numéro une, en fait, c'est incontournable. Et si tu veux aujourd'hui, si tu veux faire de la musique, mais aujourd'hui, en fait, c'est pour tout, hein, pour tout art. Si tu veux tout faire, il va falloir que ta promo passe par Internet. Voilà, c'est important.
Pour le tremplin du Rose Festival que tu as gagné, il y avait aussi Carbone qui était gagnant avec toi. Fait. Et quelle relation vous avez eue pendant tout ce concours qui a quand même duré un bout de temps, ouais, de votre victoire au jour J, de jouer du coup, ouais, à ce festival?
Mais ça a été un beau parcours. Moi, Carbone, je le connaissais pas avant le tremplin, et je l'ai découvert à la demi-finale, parce que je suis allé voir sa demi-finale qui se passait à Hoche. Et beaucoup de talent. Carbone, c'est quelqu'un de très talentueux. On le voit aujourd'hui, hein, il est en train de tout tuer là, dans tout marche pour lui aujourd'hui. Et je suis super content pour lui. Et en fait, on a eu la chance avant le Rose Festival d'avoir ce qu'on appelle une résidence. Et en fait, dans la musique, une résidence, c'est ben, tu vas juste prendre des équipes de mix, de production, en fait, de composition, toutes les équipes en fait, et vous allez vous isoler, que ce soit dans une maison, vous allez prendre des vacances, partir où vous voulez en fait, mais prendre quelques jours où vous allez vivre ensemble en fait. Et dans ces jours-là, vous allez faire de la musique, composer, faire ça peut être, des fois il y a des résidences pour pas forcément pour de la musique, ça peut être des résidences pour faire du contenu sur les réseaux, donc ça peut être plein de choses. Et donc le Rose avait organisé avant le Rose Festival une résidence d'une semaine qui s'est passé au Métronome, donc à Bordeaux Rouge, où on a pu retravailler nos sons pour qu'ils soient qualitativement les meilleurs possibles le jour du Rose Festival. Parce que nous, on est artistes amateurs, finalement, on se débrouille avec les moyens du bord. Et des fois, pour un festival, tu dois quand même avoir une certaine qualité audio pour que ton public puisse avoir la meilleure expérience possible. Et donc moi, j'ai dû retravailler certains de mes sons, les remixer. Et en même temps, on a eu la chance d'avoir plein de pros qui venaient pendant cette semaine-là pour nous préparer, que ce soit au niveau du mental, au niveau du travail scénique, mais aussi au niveau des réseaux, du stylisme, tout ça. Comment en fait un artiste doit se comporter. Et Carbone avec moi, on a vécu toute cette semaine ensemble et c'était super cool parce que du coup il y avait son équipe, il y avait mon équipe aussi et on a pu apprendre à se connaître. Et donc voilà, c'est un artiste que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup et je lui souhaite le meilleur, voilà.
Maintenant, passons à une petite interview tac au tac. Donc, okay. Je vais te poser des questions et tu dois répondre le plus vite possible.
Let's go.
Avec ou sans autotune?
Avec.
Vos années collège, enfer ou paradis?
Paradis.
Insta ou TikTok?
TikTok.
Nike ou visionnaire?
Nike.
PSG ou Marseille?
Marseille.
Film ou série?
Série.
Rex ou bikini?
Bikini.
NTM ou IAM?
IAM.
Petite ou grande salle?
Stade.
Avant de monter sur scène, track ou détente?
Détente.
Un mot ou une phrase pour vous décrire?
Jethro est un artiste ouvert, est un artiste mielleux, comme j'ai dit tout à l'heure, mais un artiste vrai. Voilà.
Un grand merci à Jethro et toute son équipe d'avoir accepté l'invitation du club
merci
podcast
beaucoup,
Berthelot. Et je vous rappelle que Jethro est en tournée à Toulouse et à ses alentours en ce moment.
Exactement. Merci beaucoup, Baptiste.
À très vite pour la suite.
Merci, Baptiste. Merci à vous.